7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Après le premier anniversaire des Gilets jaunes le mois dernier, le gouvernement se prépare à une nouvelle poussée de colère dans les rues ce jeudi avec la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Quelles sont les raisons de ces mécontentements? Quel rôle peuvent jouer les intellectuels dans les mouvements sociaux actuels? Et faut-il s'attendre à un mois de décembre explosif? Pour en parler, nous recevons le sociologue Nicolas Duvoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de pauvreté et d'inégalité. Vous êtes professeur à l'université Paris 8. Tout d'abord, votre regard sur ce qui se profile à l'horizon avec cette grève et avec ces manifestations.
D'abord, je pense qu'il faut remettre ces mouvements dans un contexte. On est au premier anniversaire des Gilets jaunes et on a vu dans notre pays une explosion de colère sociale inédite, inédite par son ampleur, inédite par ses manifestations également. Et cette éruption de colère, elle disait, je crois, une exaspération par rapport à tout un ensemble d'évolutions de nos sociétés. Bon, on peut le dire en quelques mots. D'abord, il y a la question des inégalités, bien sûr, c'est-à-dire du sentiment et de la réalité du décrochage des catégories les plus favorisées par rapport au sort commun de la population. Et puis voilà, il y a un aspect symbolique qui était évidemment très très fort dans les premières réformes fiscales du gouvernement, notamment sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Et plus généralement, il y a pour de larges parties de la population active, une forme de stagnation très profonde et très durable des salaires et des conditions de vie, dont d'ailleurs, là aussi, le gouvernement, en quelque sorte, a pris acte parce que les réponses, et notamment l'augmentation de la prime d'activité en réponse au mouvement des Gilets jaunes en décembre dernier, c'était une manière de dire, au fond, on va insuffler du pouvoir d'achat dans des salaires qui sont trop bas. Et donc il y a bien cette prise de conscience, des inégalités, de la stagnation des salaires et des niveaux de vie. Et puis enfin ça c'est un point qui quand même qui n'a pas disparu, c'est que on vit toujours dans une société dans laquelle le chômage et la précarité constituent des horizons indépassables pour de larges parties de la population. Et c'est tout ça qui finalement a coagulé le point sur lequel là on sait pas ce qui nous attend, et là où il y a peut-être c'est de se demander finalement est-ce qu'il n'y a pas un risque très grand à avoir fait une réforme, à lancer une réforme systémique, donc structurelle, qui rebat complètement les cartes de quelque chose, la retraite, qui est quand même, on peut reprendre cette expression, le capital de ceux qui n'en ont pas, finalement.
Alors justement, si on essaye de reprendre les logiques, les différentes logiques de mobilisation, parce que vous avez parlé des Gilets jaunes, vous avez dit mobilisation massive, or on a eu en pic de mobilisation 300 000 personnes, peut-être un peu plus pour ce qui concerne la réforme des retraites, il est attendu au minimum 300 000 personnes, on verra demain quel sera le nombre exact. Bref, on n'est pas sur les mêmes échelles de mobilisation. Il n'est pas du tout évident que les personnes qui se sont mobilisées il y a un an environ, que l'on appelle donc les Gilets jaunes, soient aient des intérêts convergents avec ceux qui vont manifester, par exemple, pour le maintien de la retraite telle qu'elle est organisée aujourd'hui à la SNCF ou à la RATP. Nicolas Duvoux.
Non, ça répond clairement à des logiques différentes. Là où il y a eu vraiment quelque chose d'assez nouveau, c'est dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui débordait largement les organisations syndicales, qui débordait les formes classiques, le répertoire classique de la mobilisation, comme on dit. Et donc, là, il y avait vraiment, y compris dans les formes et dans les lieux qui étaient investis. Cette question des lieux, elle a vraiment été évidemment fondamentale. Avec la question des retraites, on revient à un modèle de conflit social plus classique, plus organisé autour de revendications qui sont portées par des organisations. Mais néanmoins, on est dans une séquence qui est commune et on peut pas imaginer que le contexte qui a été créé par ce qui s'est passé l'année dernière ne rejaillisse pas et finalement ne crée pas le sentiment. Il y a un politiste, Michel Daubry, qui parle de désectorisation pour dire quand il y a un mouvement social, ce qui se passe, c'est que parfois, les revendications catégorielles qui renvoient à une partie de la société vont déborder et vont réorganiser, vont se déployer sur d'autres espaces. Et donc là, le point d'interrogation, c'est de savoir est-ce qu'on va assister à quelque chose de cet ordre-là, ou finalement une logique de débordement qu'on a pu voir dans les mouvements de l'an dernier, va insuffler des mouvements plus traditionnels sur la question des retraites. Mais encore une fois, je voudrais dire, la question des retraites, elle est à la fois spécifique, parce qu'elle concerne, comme vous l'avez dit, des régimes spéciaux.
Des régimes dits spéciaux.
Dits spéciaux, ou les modes de calcul des pensions de la fonction publique. Mais c'est aussi une question générale, parce qu'encore une fois, la retraite, c'est un risque qui nous concerne tous un jour. La pension de retraite, elle couvre, non, c'est une assurance qui couvre un risque, le risque vieillesse qui espérons-le, nous concerne toutes et tous. Et donc, ça, c'est vraiment un pivot de notre organisation sociale. Et c'est, on peut le dire, à l'échelle historique, à l'échelle des 50 dernières années, ça a été une des grandes réussites de la société française, d'avoir construit un système de retraite qui finalement arrive à endiguer la pauvreté des personnes âgées.
Le gouvernement invoque la notion d'égalité ou d'équité pour dire que un conducteur de bus à Montbéliard doit avoir les mêmes droits à la retraite qu'un conducteur de bus à Paris. Vous qui êtes sociologue, Nicolas Duvoux, comment vous observez cette notion d'équité qui est instrumentalisée de part et d'autre dans ce conflit ?
Ben, la notion d'équité, elle a une histoire dans notre vie politique et intellectuelle. Elle a été introduite notamment dans les années 90. Hein, on était déjà dans les racines intellectuelles des débats qui se sont développés en 1995.
C'est vraiment lors des grandes grèves. Les plus jeunes qui nous écoutent.
Voilà les grandes grèves et qui avaient eu une
mobilisation sur la question des retraites.
Déjà. Voilà, qui avait eu un effet c'est plus général, c'est vraiment, je pense, c'était un projet de réforme de la sécurité sociale, les retraites et la santé, et je crois qu'il faut avoir à l'esprit que c'est un tout, c'est-à-dire le modèle de sécurité sociale, c'est des institutions de protection d'un certain nombre de risques, vieillesse, santé, etc., c'est des services publics, c'est le droit du travail, et finalement c'est tout cet ensemble-là qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale pour endiguer la peur du lendemain chez les travailleurs. Donc c'est un ensemble, en fait. C'est pour ça que Bourdieu, en 95, parlait de quelque chose de l'ordre de la civilisation. C'est-à-dire, il y a un modèle avec un ensemble de d'éléments.
Le sociologue Pierre Bourdieu avait pris la parole à cette occasion.
Il avait pris la parole. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Après, sur la question de l'équité, elle a été introduite dans les années 90 pour dire, voilà, attention, la question de l'égalité, elle est pas forcément adaptée pour avoir une vision correcte et contemporaine de la justice. Et on va la tempérer par la notion d'équité. Ici, je pense que sur la question que vous posez, la difficulté, c'est qu'on plaque un raisonnement sur des critères qui sont d'équité, on va dire du calcul des pensions, alors qu'en fait, de manière plus générale, la différence des régimes renvoie à des situations spécifiques, à des contextes historiques, et puis aussi, et ça c'est un point qui est plus général sur les métiers, on va dire, de la fonction publique ou sur les anticipations, c'est qu'il y a des gestions, on va dire, de long terme, des carrières d'anticipation, et avec on va dire des compromis. Alors dans les années, il y a quelques années, les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet disaient il y a des compromis favorables de la fonction publique quand on peut aménager son temps de travail, etc. Mais c'est aussi des compromis de long terme et puis des arbitrages entre finalement des rémunérations qui peuvent être plus basses que dans le secteur privé avec finalement en fin de course quelque chose comme un relèvement ou une compensation par un mode plus favorable du calcul des pensions. Donc je veux dire le problème, c'est d'aborder de manière strictement comptable ou pseudo mathématique en fait des enjeux qui sont des régulations des rapports entre groupes sociaux.
Il y a beaucoup de colère sectorielle aujourd'hui qui s'exprime à l'hôpital, à l'éducation. Comment analysez-vous ces différentes colères qui se font largement entendre en ce moment, Nicolas Duvoux, vous qui êtes sociologue ?
Elles viennent d'un ensemble, je pense qu'on peut dire, d'évolutions transversales qui touchent, vous avez cité école, hôpital, qui touchent un certain nombre de services publics, hein, d'organisations qui sont en charge de la conduite, de missions d'intérêt général. Et ben là, on voit les faits, on voit des faits de long terme d'exigences, on va dire d'exigences de rentabilité, au sens où finalement, depuis quelques décennies, notre état, l'État, il est régulé par ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, le New Public Management, c'est-à-dire des formes de gestion qui sont transposées depuis le secteur privé et qui vont créer une contrainte économique sur la gestion d'un certain nombre d'établissements, d'organismes qui ont en charge des missions de services publics. Et dans ce contexte-là, on va avoir tout un ensemble d'effets en cascade et qui vont se traduire par des dégradations des conditions de travail, enfin y compris chez vous à Radio France où il y a en ce moment un mouvement qui s'exprime pour signaler en fait le danger sur la qualité de l'offre, hein, si jamais il y a une rationalisation trop poussée des moyens. Il me semble que c'est ça le sens d'un certain nombre de revendications qui sont exprimées.
Rationalisation n'est pas forcément un obstacle à la qualité des services publics.
Non, mais rationalisation, c'est-à-dire d'avoir une vision au plus juste des coûts, alors qu'on est dans une offre ou dans une production, y compris quand il y a, j'imagine, pour préparer des émissions, un coût d'entrée dans une œuvre, dans un travail, ça suppose d'avoir une organisation des conditions matérielles qui permettent de se projeter dans un temps relativement long.
Bon, mais si on parle au-delà de la radio, enfin, vous pouvez parler de la radio. Moi, j'ai des difficultés pour en parler puisqu'on est mauvais juge de soi-même. Mais la question de la rationalisation, qui d'ailleurs avait été au cœur d'une polémique en 1995 entre Pierre Bourdieu et Paul Ricoeur, autrement dit entre le sociologue et le philosophe. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se présente comme étant un disciple ou en tout cas quelqu'un qui a lu Paul Ricoeur. Et alors, ce qui avait opposé Ricoeur et Bourdieu à l'époque, c'était la question de la rationalité. Autrement dit, Ricoeur considérait que la réforme était du côté de la raison et Bourdieu considérait qu'il s'agissait d'une instrumentalisation de la raison. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours cette même question de la raison avec la ressource publique qui est une ressource rare.
Oui, il y a la question de la raison. Et plus là, je pense que sur la question qui va nous occuper, en tout cas dans les jours qui viennent, il y a un problème parce que effectivement la réforme des retraites, si on prend cet exemple-là, elle est justifiée par tout un ensemble d'arguments, dont la plus grande lisibilité du système. C'est comme on a 40 caisses différentes avec des règles différentes. L'idée, donc là, il y a une volonté de rationalisation, hein, très claire et de simplification, c'est de faire un système qui soit équivalent pour tous, avec une meilleure capacité d'anticipation, de mieux conduire sa vie. Finalement, là, il y a une dimension de rationalité qui est invoquée. Simplement, là, il y a quand même une tension, parce que les paramètres dont on dispose pour comprendre et savoir, notamment, enfin, sur des questions très très bêtes, le taux de remplacement, l'âge de départ, etc. Je pense que l'information dont disposent les citoyens au jour d'aujourd'hui, elle est pas forcément suffisante pour avoir la possibilité de faire une délibération en toute connaissance de cause. Donc là, il y a une tension très forte entre l'invocation d'une rationalité, d'une meilleure organisation, d'une plus grande lisibilité, et puis un débat démocratique qui repose encore sur des termes relativement flous, ne serait-ce qu'en termes, là, pour le coup, de simulation, de capacité d'anticiper les choses. Plus largement, je pense que les termes du débat ont quand même évolué par rapport à 95, dans le sens où en 95, je vais le dire comme ça, il y avait quand même une opinion personnelle, un débat entre deux gauches, une gauche sociale-démocrate, on va dire la deuxième gauche réformiste, et puis une gauche qui avait un message plus de défense d'un ensemble de réformes qui avait une une dimension destructrice. C'est un peu la position que Bourdieu avait adoptée en parlant voilà d'un modèle de civilisation à conserver. Aujourd'hui, il me semble que presque 25 ans après, les évolutions de notre société et les recompositions du champ politique ont conduit à cette tension à être, je veux dire, on renvoyait un peu dans le même camp des gens qui pouvaient être dans des parties différentes. Il y a évidemment des oppositions. Il ne faut pas les mettre sous le tapis. Et il y a des prises de position différentes, notamment des grands représentants des centrales syndicales. On le voit tous, c'est évident. Mais je pense qu'il y a une lame de fond. Il y a une lame de fond dans l'évolution d'un certain nombre de métiers, de fonctions, et plus généralement de l'orientation très inégalitaire. De l'action publique dans certains domaines en tout cas qui fait que ces questions-là sont peut-être moins aiguës.
Mais alors, justement, parce que quand vous dites qu'il y avait un débat à l'intérieur de la gauche, il y avait aussi une forme de conversion, parce que si on prend Pierre Bourdieu, pendant très longtemps il a expliqué que l'État était un instrument de domination entre les mains de la classe dominante, et puis à la fin de son œuvre il a expliqué au contraire que l'État était ce qui protégeait les plus humbles, ce qui témoigne à minima d'un virage, peut-être aussi d'une conversion social-démocrate, puisque la social-démocratie, c'est a priori la défense de l'État. Est-ce que ça ne marque pas finalement le fait que toute la gauche, y compris celle qui se pense comme la plus radicale, s'est convertie aux idées social-démocrates et donc à la défense du service public, Nicolas Duvoux?
C'est évidemment difficile d'interpréter cette tension qui est très forte, évidemment. Mais je pense que là, il y a aussi eu une prise de conscience de la responsabilité par un certain nombre d'intellectuels du fait que, quelles que soient les dimensions de domination et de domination symbolique exercée par un certain nombre d'institutions, et notamment chez Bourdieu, c'était évidemment l'école qui avait cette violence, qui appliquait cette violence symbolique. En fait, il y avait là quand même des éléments de protection et des choses sur lesquelles construire. Et donc je pense pas qu'il y a une contradiction chez Bourdieu entre sa critique de la domination par l'école, par exemple, et sa défense des services publics. C'est juste de dire, en fait, l'école fait toujours, les institutions et l'État fait toujours les deux. Il est à la fois celui qui assujettit et celui qui émancipe. Et finalement, c'est dans cette tension créatrice qu'il est possible de se projeter. Mais pour se projeter, il faut encore avoir conservé un certain nombre d'éléments. Je crois que c'est ça le sens du message, de cette conversion dans la période de 95.
Et alors, l'autre contradiction, c'est le fait que d'un côté, on a tendance à dire en sociologie que l'opinion n'existe pas, alors même que la question de la grève, elle va se jauger sur la bataille de l'opinion. En tout cas, ça a débuté avec des sondages qui disent que ce mouvement serait populaire auprès de 58% des Français. C'est une bataille de l'opinion, Nicolas Duvaux.
Oui, c'est une bataille de l'opinion. L'opinion, elle est construite, c'est-à-dire elle est construite par les médias, les prises de position. Aussi, et je pense que c'est vraiment important parce que il y a une forme de cadrage. Quand vous mettez le débat sur des questions pour le voile, contre le voile, vous organisez une polarité de l'opinion très clairement. Donc là, la question, c'est que finalement, et on l'a vu d'ailleurs avec le soutien d'une partie importante de l'opinion au mouvement des Gilets jaunes, et un soutien très durable, c'est que il y a un retour du refoulé de ces questions dont on parlait au début de notre entretien.
Nicolas Duvoux, Où va la France populaire? C'est votre livre, publié aux éditions des Presses universitaires de France. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par la metteuse en scène Ariane Mouchkine, qui a signé une pétition, un appel des intellectuels en soutien à celles et ceux qui luttent. Elle sera donc dans ce studio.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
C'est dans un climat social particulièrement tendu que le gouvernement se prépare à la grève interprofessionnelle de demain. Hôpitaux, retraite, école, inégalité, pauvreté. Notre système social et nos services publics sont-ils sur la corde raide? Et que peuvent les intellectuels dans les luttes sociales? On en parle en compagnie du sociologue Nicolas Duvoux. Vous êtes spécialiste des questions de pauvreté et d'inégalité. Vous êtes également professeur à l'université Paris 8. Et nous accueillons la metteuse en scène Ariane Mouchkine. Bonjour. Merci d'être ici, Ariane Mouchkine. Vous êtes l'une des signataires d'un appel de plus de 180 intellectuels et artistes qui soutiennent, je cite, « celles et ceux qui luttent ». C'est une pétition qui est à l'initiative de la revue Regard. Je vais citer un extrait de cet appel. « Dans la rue, sur les ronds-points au sein des associations, des syndicats, des partis, dans les quartiers, les possibles s'échafaudent et se multiplient. Les expériences réellement démocratiques se dessinent, les solidarités se font. » Et les rapports de force. Également, l'écologie populaire se dote d'une colonne vertébrale idéologique et pragmatique. Les mouvements sociaux embrassent l'ensemble de la société. Pourquoi, Ariane Mouchkine, avoir décidé de signer cet appel ?
Parce que je pense qu'il est, cet appel, il est, comment dire, touche juste. C'est-à-dire, il ne s'est pas égaré dans des positions idéologiques. Il dit ce que je pense vrai, c'est-à-dire que les artistes, les intellectuels doivent soutenir ce mouvement parce qu'au fond, ce mouvement est une revendication d'abord et avant tout de justice. Voilà, de justice et de protection du bien commun. Voilà, parce que évidemment, il ne s'agit pas d'une grève corporatiste. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont manifester demain qui seraient d'accord pour une réforme des retraites et peut-être pour une universalisation de ce système, du moment qu'il reste juste, qu'il tienne compte des durées de vie, qu'il tienne compte de la pénibilité, qu'il tienne compte de toutes sortes de choses dont visiblement, il ne tient pas compte.
Alors voilà. Précisément, qu'est-ce qu'il a d'injuste ? Parce que le gouvernement considère que ce système, ou en tout cas cette réforme, si celle-ci, bien entendu, va jusqu'à son terme, est une réforme de justice et d'équité.
Voilà, alors d'abord, le gouvernement est très mauvais pédagogue, il faudrait le lui dire, parce qu'on ne le croit pas. Hein, donc, s'il veut vraiment expliquer la justice de cette réforme, il faut qu'il s'y prenne mieux. Et moi, je ne suis pas une spécialiste du droit à la retraite, etc. Hein, donc, je vais pas répondre sur ce terme. Mais le fait que, quand même, 80 ou 70% des Français pensent qu'il est injuste, à moins que 80% des Français soient des imbéciles, je pense plutôt que c'est le gouvernement qui ne réussit pas à faire passer une tromperie. Voilà, je pense que cette réforme, comment dire, pénalise les moins fortunés, et c'est un euphémisme que de dire ça. Je pense, et ça, bon, alors ça c'est peut-être différemment, moi j'ai toujours pensé, je vois pas pourquoi la retraite doit perpétuer les difficultés de vie de certains. Pourquoi, hein, c'est-à-dire, on a l'impression de vous avez, pardon, hein, mais mangé de la vache enragée toute votre vie, ben alors vraiment, c'est normal que vous continuiez à manger de la vache enragée pendant votre retraite. Moi, je pense que la retraite pourrait justement, si elle était conçue dans un esprit juste, pourrait être peut-être justement une compensation à toutes ces années difficiles.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que des gens qui n'ont pas bien gagné leur vie pendant leur vie pourraient avoir proportionnellement une retraite légèrement plus forte que ceux qui ont réussi à faire des économies, par exemple. Hein. Alors, donc, ce serait ça l'esprit de justice. Même si probablement on va me dire c'est très compliqué. Ben, visiblement, la réforme que veut le gouvernement actuel, elle est très compliquée aussi parce que ça met la France dans la rue.
Il y a, en tout cas, dit le gouvernement, des ressources rares. Et l'État s'est appauvri et les régimes spéciaux coûtent très cher. Alors la fourchette est très large, mais entre 8 et 18 milliards. Je ne vais pas discuter des sommes avec vous, Ariane Mouchkine, mais l'idée, c'est qu'on a d'un côté un appel, celui que vous avez signé, ces 180 intellectuels et artistes, qui publient dans la revue Regard un appel à ce que la justice sociale, je vous cite, prime sur la loi du plus fort, et de l'autre, un discours qui rappelle ou qui prétend rappeler à la réalité des chiffres.
Oui, mais bon, vous me mettez dans une, comment dire, vous me donnez un statut que je ne veux pas avoir, je ne suis pas économiste. Mais je pense que ce gouvernement, depuis le début, depuis l'élection de M. Macron, n'a qu'une seule jambe, hein, il n'a que sa jambe droite, voilà. Et bon, alors je ne veux pas rappeler la phrase de Mitterrand qui disait « le centre n'est ni à gauche, ni à gauche ». Mais je trouve que Emmanuel Macron est devenu vraiment le symbole même de cette boutade. Et qu'il est temps, il serait temps, il aurait été temps, peut-être est-il trop tard pour lui-même d'ailleurs, hein, qu'il retrouve sa jambe gauche. Bon, or que la justice sociale prime sur l'économie, eh bien oui, voilà. Il y a quelque chose maintenant, il faut que peut-être, je ne sais pas, ils enlèvent leur cagoule, les gens du gouvernement, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un refus.
Les cagoules dans les manifestations.
Non, pardon, ce que je voulais dire, leurs capuchons, voilà, leurs lunettes opaques. Voilà, il faut qu'ils ouvrent les yeux.
La réalité, c'est
voilà, il faut qu'ils ouvrent les yeux, leurs oreilles, peut-être un petit peu leur cœur aussi. Hein. Peut-être un petit peu leur cœur et qu'ils voient que le peuple français ne va pas accepter une injustice permanente.
Ariane Mouchkine, comment avez-vous vécu le mouvement des Gilets jaunes? Il a aujourd'hui un an, ce mouvement. Quel regard avez-vous posé sur lui?
Ben justement, moi j'ai eu un regard assez réservé hein, sur les Gilets jaunes, à cause de leur méthode, je dirais, pas du tout de leur objectif. Parce que je trouvais que ce qu'ils demandaient, enfin, que ce qu'ils, à part le fait qu'ils voulaient dire, quand ils voulaient dire Macron dehors, bon, ça me paraissait limité, ça, comme revendication. Mais les revendications...
Limité ou... infondé dans la mesure où...
Non, mais c'est pas infondé, il a été élu. C'est pas une question d'infondé, c'est que c'était inobtenable. Hein, donc, parce qu'il a été élu, parce que voilà, donc il y a des lois, etc. Mais quand je veux dire, l'absence totale de soucis de ce gouvernement par rapport à la pauvreté, par exemple, à l'extrême pauvreté ou à la pauvreté tout court, est quand même patent. Et donc les Gilets jaunes me paraissaient vouloir ça, mettre une lumière très forte sur cette espèce de lobotomie, enfin dont on a l'impression parfois que ce gouvernement a été la victime. Mais bon, je n'étais pas pour les méthodes. C'est-à-dire, je pense que la violence...
Quelle méthode?
Est-ce que je peux vous lire un petit... J'ai apporté des extraits du... Enfin, pas des extraits, j'ai apporté le discours de Jean Jaurès à la jeunesse. C'est un ami qui me l'a rappelé. Je l'ai relu et j'avais envie de vous lire ça, si c'est possible.
Nous vous écoutons.
Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action. Qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile, et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Instituer la République, c'est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune. On a l'impression qu'il parle de hier, d'aujourd'hui, de demain. Donc, si vous voulez, ce qui m'inquiétait avec les Gilets jaunes, c'est que ça tourne à la fureur chronique. Hein, et qu'effectivement, il n'y ait plus aucun dialogue possible. Et le fait de n'avoir aucun représentant, en tout cas visible ou avoué, me paraissait pas de très bonne politique.
Vous venez de dire l'extrait d'un texte de Jaurès. C'est qui Jaurès aujourd'hui, Ariane Mouchkine?
Je pense que... vous voulez dire qu'on ne pense plus à Jaurès? On pense à Jaurès quand on le relit.
Je voulais dire, est-ce qu'il y a un homme qui aujourd'hui incarne?
Non, voilà, c'est lui qui nous manque. Je dirais, c'est vrai, il n'y a pas de grande voix en ce moment. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça ne veut pas dire qu'une femme ou un homme ne va pas un jour nous rappeler comme ça à l'ordre de, je dirais, à l'ordre de nos espoirs.
Hein. Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de mal pour les individus d'incarner les luttes. D'ailleurs, les Gilets jaunes étaient précisément une lutte qui n'était pas incarnée.
Oui, peut-être que ça a un peu manqué, ça. Ça ne fait pas de leur lutte une lutte fausse, hein. Mais c'est, je dis, moi, c'est les méthodes que je contestais. Mais, oui, mais c'est pas parce que je vous dis, oui, donc c'est vrai, nous manquons en ce moment de gens qui nous redonnent du courage d'abord et qui le fassent en des termes sans haine. Voilà, je crois que il y a aussi ça, c'est qu'il y a en ce moment une abondance de propos haineux qui au fond ne font que diviser davantage alors que nous avons besoin d'union, qui expulse du débat beaucoup de gens qui ont peur de cette haine ou qui s'en sentent trop blessés pour pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, il faut dire que ça commence à devenir de plus en plus difficile de répondre à des propos haineux et dispersés et innombrables, surtout quand ils sont anonymes.
Nicolas Duvoux, vous qui êtes sociologue.
Oui, juste c'est sur la question de la, parce qu'on fait souvent le parallèle effectivement entre vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre la manière dont Bourdieu avait incarné en tant qu'intellectuel dans les grèves de 95 et le mouvement des Gilets jaunes, où il y a effectivement peu d'incarnation. Alors d'abord, ça c'est aussi peut-être un signe des temps. Il y avait dans ce mouvement une défiance vis-à-vis de toute incarnation, de toute représentation, de toute porte-parole, qui soit extérieure ou qui vienne même des rangs du mouvement. Donc ça nous dit quelque chose aussi d'une défiance un peu systématique vis-à-vis de toutes les figures qui sont reconnues, institutionnalisées. Donc ça c'est un point qui était frappant. Après, sur le rôle des intellectuels, je pense qu'en France on a cette idée, on a des modèles, on a des grands modèles qui ont été construits. De Hugo à Zola jusqu'à Sartre, et puis dont Bourdieu était peut-être la dernière incarnation. Et je pense que ce modèle de l'intellectuel total, qui a une capacité d'exprimer l'universel de manière assez directe, en fait, il a à la fois un élément constitutif de notre imaginaire et peut-être de nos attentes, une voix qui porte. Et en même temps, ça nous cache aussi la très très grande dynamisme, la très grande productivité, des collectifs qui soient dans la recherche, qui produisent des choses sur des nouvelles questions, le genre, les inégalités ethno-raciales, l'intersectionnalité de ces inégalités, toutes les manières de repenser les identités, mais simplement c'est un et en lien avec des artistes, en lien avec des militants, etc. Et je pense qu'il y a là une productivité sociale très très grande, mais qui se fait aussi sous une forme plus éclatée, comme sous la forme d'un intellectuel collectif. Et je pense qu'il ne faut pas forcément, enfin en tout cas c'est un point de vue personnel, avoir la nostalgie de l'intellectuel qui va incarner de manière directe et unique, parce qu'il y a aussi, d'autres formes d'organisation de la production intellectuelle qui se mettent en marche.
Qu'est-ce que vous en pensez, Ariane Mouchkine ?
Je suis pas d'accord. Je n'ai pas la nostalgie.
C'est d'ailleurs, ce que je disais. Hein.
Un petit peu. J'ai pas la nostalgie de Jean Jaurès. Ou alors ça voudrait dire que j'ai la nostalgie de toute la culture. Ce que vous venez de dire, c'est comme si se référer à certains grands poètes, certains grands artistes, certains grands intellectuels, c'était nostalgique. Mais c'est notre histoire. Et je pense en plus que les mouvements dont vous parlez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France qui se battent pour le bien commun, pour que ça soit mieux, pour que ça soit moins pire. Beaucoup, il ne s'agit pas, ce n'est pas de se référer à Jean Jaurès qui les éliminerait, bien au contraire, parce que je pourrais vous lire un autre petit texte où il dit...
Qu'est-ce qu'il dit en substance, hein, Ariane Mouchkine?
Il parle de la confiance en l'homme, hein, il dit « Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, les égoïsmes de tous ordres, de tout ordre. Égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes qui appesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice ne peuvent se passer du secours du temps et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. » Eh bien, peut-être que demain, c'est une aurore incertaine. Voilà. Mais certains de ces mouvements, pardon, monsieur...
Nicolas Duvaux.
Mais voilà, vous avez aussi cité dans l'énumération que vous avez faite des mouvements qui sont et qui s'expriment souvent par de la haine et par de la division. Et donc,
vous pensez à quoi, Ariane Mouchkine ?
Il sait très bien de quoi.
Nicolas Duvaux.
Non, mais justement, quand vous avez parlé de gens qui recommencent à vouloir travailler sur le concept de race ou etc., ce n'est pas, à mon avis, en ce moment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une force de progrès. C'est, voilà.
Juste un point là-dessus, je pense que c'est, c'est important, mais ça c'est dans les sciences sociales, de dire qu'il y a des formes d'inégalité, il y a des formes de domination dans nos sociétés qui reposent, en fait, et c'est ça le seul, sur des formes d'assignation à des identités. Ça, je pense qu'on ne peut être que d'accord là-dessus.
C'est réciproque, alors.
Ces assignations à des identités, elles produisent vraiment des inégalités, des discriminations très profondes. Et je crois que c'est vraiment, enfin, le rôle, encore une fois, de cet intellectuel collectif que sont les sciences sociales, que de dire, en fait, voilà, il y a là des formes de domination, des formes de stigmatisation de certaines parties de la population qui peuvent avoir après des formes de réaction, etc., mais qu'il est important d'abord de décrire, d'analyser pour que chacun ait sa voix. Et après, il y a pas du tout, en fait, ce que je voulais dire sur c'est que, en fait, il y a des formes de production intellectuelle qui, peut-être parce que les réseaux sociaux, parce que aussi la professionnalisation d'un certain nombre d'univers, de la recherche, il y a des formes de l'intellectuel collectif qui s'organisent autrement et qui passent par d'autres canaux. C'est pas du tout exclusif. Et encore une fois, si vous prenez Jaurès, tout ce dont on discutait tout à l'heure sur la dimension politique du modèle social, de l'état social, de la sécurité sociale, évidemment, c'est Jaurès qui pointait la contradiction entre la souveraineté politique de l'ouvrier et puis sa servitude économique. Donc évidemment, toutes ces références-là sont injectées dans ces réflexions. Mais simplement, je pense qu'il y a dans notre société, en fait, voilà, c'est des choses qui s'inventent et qui s'inventent aussi sous des formes peut-être moins incarnées par une personne ou une figure de l'intellectuel.
Ariane Mouchkine, que peuvent les artistes aujourd'hui, parce que donc les artistes étaient à côté du mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu véritablement de réunion, il y a même eu probablement une incompréhension entre ces deux mouvements ou une ignorance. Aujourd'hui, que peuvent-ils ?
J'ai un petit moment de silence parce que c'est probablement la question que nous nous posons tous les matins, tout le temps. C'est que, comment pouvons-nous agir ? Comment pouvons-nous comprendre, comment pouvons-nous éclairer par nos œuvres, puisque on est supposé faire des œuvres quand on est des artistes, comment pouvons-nous éclairer notre société, en éclairer à la fois les beautés, les forces qui sont à l'œuvre, parce que même si je ne suis pas d'accord avec certains des propos qui ont précédé, je sais, enfin je, mais comment pouvons-nous le faire? Je crois que c'est une question, et comment pouvons-nous le faire sans nous mettre devant?
Quelles sont les œuvres qui vous parlent, Ariane Mouchkine, des luttes, celles qui se profilent, celles qui sont en cours, ou bien des luttes en général?
Vous voulez dire actuellement ?
Oui, oui.
Je pense que tout le monde essaie de travailler là-dessus.
Enfin, je veux dire, quelles sont les grandes œuvres ? Les œuvres de l'esprit, vous avez cité Jaurès. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous viennent spontanément ?
Là, j'ai un trou terrible. Parce que je vais effectivement, j'ai envie de vous parler des œuvres du passé, et vous voulez que je vous parle des œuvres actuelles ?
Non, pas nécessairement du...
Je vais vous parler
vous
des
pouvez parler de Victor Hugo,
voilà,
vous pouvez
voilà,
parler
non, Victor Hugo,
de qui
il est
vous voulez.
Victor Hugo, bon, il domine tout. Mais alors, je vais vous parler de deux personnes. Il se trouve que ce sont des Britanniques, mais ça fait rien. Je vais vous parler de Dickens et d'Orwell. Dickens, par son œuvre romanesque, a changé non seulement le regard, mais le statut des enfants qui travaillent en Angleterre, de l'esclavage des enfants. Il l'a changé. Et il l'a changé par l'émotion de son art. Pas seulement par son militantisme, il était aussi militant, mais il l'a changé par l'émotion, c'est-à-dire par son talent. Et Orwell, qui est beaucoup plus militant, beaucoup plus politique, si vous voulez, pour moi, a été aussi quelqu'un de fondamental dans la mesure où il a eu le courage de critiquer ses propres engagements, c'est-à-dire de savoir à quel moment il avait pu être entraîné ou manipulé ou ne pas voir la face sombre de cette idéologie qu'il prônait avec tant de générosité et de talent, et où il a vu, la morsure, le monstre qui pouvait sortir. Donc je pense que les artistes, évidemment, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à faire, si c'est d'abord dans la sincérité, pas dans l'obligation d'épousailles à une cause que peut-être ils ne partagent pas à 100%, si c'est en soulignant la complexité, un peu ce que fait Jaurès hein, quand il dit il n'y a pas d'illumination immédiate, il y a un certain nombre de daubes incertaines. Et bien voilà, donc au fond, les artistes, il est artiste quand il dit ça, il est artiste encore plus comme politique.
Mais Orwell, précisément, c'est une œuvre qui est une œuvre extrêmement complexe, qui n'est pas du tout monolithique, qui présente la manière dont ces différentes luttes se sont perdues.
Vous m'enlevez le mot de la bouche. Voilà, je pense que nous pouvons être utiles, surtout en n'étant pas idéologiquement monolithiques, c'est-à-dire en nous imposant à nous-mêmes de voir la complexité de choses, de voir les dilemmes, de voir les réalités, sans jamais abandonner l'objectif, qui est le progrès social.
Mais alors quand Orwell dit « Vous n'aurez pas de difficulté à reconnaître les fascistes dans l'avenir », ce sont eux qui hurleront « Attention, il y a des fascistes ».
Oui, mais je suis un peu d'accord. Pardon, mais je suis un peu...
Vous n'allez pas à vous pardonner, ou à vous faire pardonner, d'abord je citais c'était... Orwell parce que je pense que c'est une belle phrase.
Voilà, et c'est vrai, c'est... Il y a aussi la mode imprécationniste, on ne se parle plus, on lance des imprécations, des appels au pilori, des malédictions, des accusations, et même entre artistes, entre intellectuels. Bon, ça a toujours eu lieu. Il y a eu ça pendant le stalinisme, il y a eu ça pendant le maoïsme, et il y a ça maintenant.
Mais c'est pas un peu désespérant, Orwell? Moi, j'adore Orwell, mais quand on lit, par exemple, l'hommage à la Catalogne, autrement dit son engagement pendant la guerre d'Espagne, finalement, ce livre ne montre que la manière dont les staliniens ont perverti cette lutte.
C'est pas désespérant du tout. Il m'avertit. Il m'avertit, moi, jeune femme de 20 ans, il me dit, attention, Ariane, écoute bien ce qui t'est dit, ne lance pas des slogans avant d'avoir bien analysé si tu les comprends et si tu es d'accord vraiment en ton âme et conscience. Ne suis pas tel, même si tu entends hurler ces slogans par des milliers de personnes, est-ce que c'est vraiment ce que tu crois? Est-ce que vraiment c'est ce que tu crois? Ne te laisse pas embrigader. Voilà. Et c'est ce qu'il dit. Et il ne lâche, quand il dit ça, Orwell n'a à aucun moment lâché son objectif. Son objectif de son rapport à la pauvreté, son rapport à l'injustice. Il a continué à œuvrer là-dessus, mais dans un esprit de au moins de tentative de vérité. Je pense que nous avons affaire en ce moment à une quête de justice, de vérité et de nous rappeler quand même quel est notre bien commun, même si, comme vous et moi, nous avons des différends sur les méthodes ou les... Voilà, donc il y a quelque chose là qui est... La seule chose qui pourrait être désespérante, c'est de se dire que les forces de division vont perdurer et gagner. Moi, je ne le pense pas. Je pense que quand même, il y a des moments où la raison et la confiance en l'homme et la confiance en l'humanité vous rappellent que vous venez d'entendre une insanité ou on vient de vous insulter, mais il y a quelqu'un qui vous a regardé et qui a montré que même s'il ou si elle a peur de dire qu'elle approuve, elle le pense. Et ça, c'est des forces d'union. Et nous avons des grands déchiqueteurs de la société en ce moment, y compris ceux qui hurlent « Attention, il y a des fascistes », ou « Attention, il y a des racistes », ou « Attention, il y a des... » Voilà.
Oui, donc, c'était ceux-là que visait Orwell, je pense.
C'est ceux-là. Donc ça ne veut pas du tout dire que Orwell accepte le racisme. Ni le fascisme, ça veut dire qu'il a fréquenté ses adversaires, il a fréquenté cette mauvaise foi, il a fréquenté ce désir de pouvoir.